9h34 hier, notre invité était victime d'un drame familial. Son frère était la victime directe, mais le fait qu'elle était au courant des sévices que le beau-père avait imposés au fils, ben, c'est évidemment une prison qui se crée. Et devant le refus du fils de parler, ben, elle a traîné ça pendant des années. Et c'était extrêmement troublant comme émission. Puis j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui m'ont écrit sur l'inceste, sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qui s'est passé dans leur famille. Camille Kouchner, qui est issue d'une famille très en vue en France, son père ministre, fondateur de Médecins sans frontières, père absent, mais avec une vie personnelle absolument trouble, familiale, j'entends. Ce matin, je vous présente Nancy Audet, avec son livre « Plus jamais la honte, le parcours improbable d'une petite poquée ». Ça part de l'Abitibi, puis c'est un parcours de vie qui démarre dans un contexte de, je dirais, violence psychologique extrême. Il y a eu de la violence physique également, mais ça ne l'a pas arrêté pour atteindre ses objectifs, puis de foncer dans la vie quand on dit qu'elle est passée par l'université, la Sorbonne, fait carrière dans le monde du journalisme. Nancy Audet, bonjour.
Bonjour.
Votre livre est extrêmement bouleversant parce que vous mettez tout sur la table en partant. Et d'entrée de jeu, on comprend là, que votre mère voulait un fils, puis malheureusement, c'est vous qui êtes arrivé, puis vous allez payer le prix de ça en partant.
Ben oui. Ça a pris des années avant qu'on m'explique. En fait, c'est mon père qui m'a expliqué parce que j'avais besoin de comprendre. Je voyais bien que j'étais pas traitée comme les autres, que j'avais jamais été traitée comme les autres. Et puis, il avait gardé ce secret-là que ma mère avait pleuré à ma naissance parce que j'étais une fille. Et il avait toujours espéré qu'un jour, sa déception passe, qu'elle change d'avis. Malheureusement, c'est pas arrivé. Pourquoi? Probablement que je le saurai jamais. Mais c'est sûr que ça a donné lieu à une enfance très difficile où je sentais pertinemment que je n'avais pas ma place dans cette famille-là. Je n'étais pas aimée, je n'étais pas désirée. Peu importe ce que je faisais, ça fonctionnait jamais. Donc, ça a été une enfance assez difficile.
Mais surtout que votre père était pratiquement toujours absent, là, c'est-à-dire absent pour son travail, puis absent parce que peut-être il n'avait pas envie d'être à la maison aussi, là.
Oui, c'est un mélange des deux. En fait, mon père travaillait dans la forêt. Pour les gens qui connaissent, là, c'est dans le coin de Matagami, qui est quand même assez loin. Donc, il partait souvent le lundi matin, revenait le vendredi. J'avais toujours très hâte qu'il revienne à la maison. Malheureusement, quand il revenait la fin de semaine, il n'avait pas tant envie d'être là. Lui aussi, il vivait des choses très difficiles. C'est un peu tabou, hein, la violence subie par les hommes, mais ça existe. Donc, il se trouvait toujours des raisons de partir, de s'en aller. Il faisait beaucoup de sport à l'extérieur de la maison. Il était entraîneur. Donc, malheureusement, il n'était pas souvent là pour me protéger. Il a essayé à quelques reprises. J'ai des souvenirs. Et quand ça arrivait, quand il me protégeait, ben c'est lui qui mangeait les coups. Elle essayait souvent de le convaincre de me frapper. Lui, son souvenir, c'est que chaque fois qu'il revenait le vendredi, bon, mais là, il avait droit à tout ce que j'avais fait de mal durant la semaine, puis elle insistait pour qu'il me punisse, puis il refusait toujours. Heureusement, parce que j'avais déjà pas mal, je subissais déjà pas mal de violence du côté de ma mère. Mais tu sais, aujourd'hui, j'en ai voulu longtemps, c'était mon papa, j'aurais aimé qu'il me protège. Il avait sa propre réalité, ses propres difficultés. Aujourd'hui, j'ai fait vraiment la paix avec ça. J'ai pardonné, j'ai la tête tranquille, le cœur tranquille aussi, parce que c'est important. C'est important de pardonner pour avoir une belle vie.
Et votre mère, elle?
Aussi. J'ai compris il y a quelques années que c'était essentiel, parce que si je gardais de la colère puis de la rancune dans mon cœur, c'est juste à moi que ça faisait mal. Ça m'empêchait de vivre bien, ça m'empêchait d'être heureuse. Il y avait toujours ce nuage gris-là au-dessus de ma tête. Mais surtout, je voulais être une bonne mère pour ma fille. Puis je comprenais que si je gardais cette colère-là en dedans de moi, cette rancune-là, ben je pourrais pas être la mère que je voulais être. Donc, je me suis débarrassée de ça. Puis honnêtement, ça a pas mal changé ma vie. C'était la chose à faire. Puis j'invite les gens à faire ça. C'est un processus qui est pas facile. Honnêtement, c'est un processus qui s'étale sur plusieurs années. Faut obtenir de l'aide, tout ça. Beaucoup de temps en thérapie, beaucoup d'investissement. investissement, mais ça vaut la peine parce que, tu sais, une vie, on en a juste une. Puis je le dis souvent, on peut pas écrire souvent les premiers chapitres de notre vie. Hein? On n'est pas maître de ça, mais on peut écrire les derniers chapitres, par contre. Puis moi, j'ai décidé d'écrire les miens, puis de les écrire à ma façon. Puis j'avais envie qu'il y ait beaucoup d'amour là-dedans, puis beaucoup de bienveillance. C'est ça que j'ai décidé de mettre dans mon livre à moi, dans ma vie à moi.
Mais en même temps, puis je comprends très bien là, votre démarche et ce que vous dites, mais quand on lit dans votre livre que votre mère, je vais prendre une image là qui va peut-être être dure, là, mais qui c'est quand même ça, vous a livré à un voisin, un vieux monsieur, comme un espèce d'objet sexuel qui vous a laissé seul avec lui pour lui permettre de réaliser ses fantasmes. C'est dur de comprendre qu'on puisse pardonner à quelqu'un, à un adulte, une mère qui est supposée nous aimer, nous protéger, qu'elle puisse faire quelque chose comme ça.
Oui, mais on n'a pas le choix. Vous savez quoi? Je voudrais être en colère, mais quand à chaque fois que je me suis arrêtée puis que je me laissais envahir par ça, j'allais tellement mal, M. Arcan, là, tellement mal. C'était des nuits d'insomnie. C'était vivre une vie où t'es pas vivant, t'es pas là. Tu peux pas profiter de la vie, tu peux pas voir les belles choses. Parce que oui, c'est difficile ce qui est arrivé, puis ça a laissé des séquelles. Je fais ce qu'il faut pour guérir encore aujourd'hui. Je fais ce qu'il faut tout le temps. C'est son choix à elle. C'est elle qui vit avec ça. Moi, aujourd'hui, la honte, elle ne m'appartient plus. C'était pas de ma faute. Quand j'ai été abusée par cet homme-là, c'était de 5 à 7 ans. J'étais toute petite. J'étais toute fragile. Je le vois, tu sais, ma fille a 5 ans aujourd'hui. Puis quand je la regarde, je réalise à quel point j'étais petite, incapable de me défendre. Par contre, je me souviens que j'avais le sentiment, je savais que c'était pas bien. Je le savais. Et la journée où j'ai dit, je ne veux plus qu'il me touche, ah bien là, ça a fait un drame énorme dans la famille. J'aurais aimé. T'sais, heureusement, j'ai un oncle qui a pris ma défense, qui est allé le confronter, puis je le remercie pour lui dire qu'il ne devait plus s'approcher de moi. Mais ma mère, bon, arrêtait pas de dire, ah, elle est menteuse, c'est pas vrai, elle fait pas ça. Mais ça, malheureusement, c'est un autre drame, là, parce que les victimes d'agressions sexuelles, souvent, on va refuser de reconnaître ce qu'elles ont vécu. Et ça, c'est une deuxième agression. Et je pense que ça fait tout aussi mal que l'agression sexuelle.
Je sais pas comment c'est pour vous, mais pour avoir fait beaucoup d'entrevues avec des femmes principalement, mais des hommes aussi qui ont été victimes d'abus sexuels, le plus important, c'est pas nécessairement de pouvoir faire condamner l'agresseur, de pouvoir obtenir une décision de la cour, mais c'est surtout pour la première fois d'être cru vraiment. L'importance qu'on accorde à votre parole, quand vous le dites, là, quelqu'un vous croit.
Oui. Puis moi, c'est ça, mes parents, ma mère ne me croyait pas, mais elle savait très bien, c'est elle qui m'amenait dans cette maison. Mais elle disait à tout le monde que c'était fou et tout. C'était difficile, mais heureusement, un jour, il y a un oncle qui a dit, c'est vrai. Je la crois, mais non seulement il me croyait, mais il le savait que c'était vrai parce que cet homme-là avait fait d'autres victimes. Vous voyez, si quelqu'un avait un jour dit « Ok, ça suffit, ça se termine », on aurait peut-être sauvé d'autres petites filles parce que je suis pas la seule à avoir été agressée par cet homme-là. Mais aujourd'hui, heureusement, il y a des gens qui sont là pour m'accueillir. Je sais que ces personnes-là me croient. Que c'est vrai. Et vous avez raison, c'est tellement, tellement important. Moi, mon agresseur est décédé. Vous allez le voir dans le livre, de quelle façon. On s'est toujours demandé, est-ce que c'est parce qu'il se sentait coupable? Est-ce que c'est parce que j'avais osé dire, raconter ce qu'il me faisait? On ne saura jamais. Mais il est décédé, donc on n'a pas pu porter plainte. De toute façon, je ne crois pas que mes parents auraient voulu se diriger dans cette direction-là. J'entends un peu qu'on voulait le protéger lui, protéger la réputation. Mais ça aussi, c'est assez triste, c'est assez troublant pour une victime.
On va sauter des étapes un peu dans votre vie parce que c'est sûr que page après page, vous parlez de votre enfance, l'adolescence et tout ça. Parlez-moi de la DPJ. Il y a eu différents moments, différentes étapes. Vous êtes une enfant de la DPJ en partie. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là avec la DPJ?
Ça a été difficile. J'ai eu un placement, il y a eu un signalement anonyme. Ouais. il y a eu une rencontre. Hein, souvent, des fois, on va rencontrer l'enfant seul. Moi, dans mon cas, j'étais avec ma mère quand on a été convoqués dans les bureaux de la DPJ. Et puis, ça a duré 30 secondes. Dès qu'elle a su de quoi il était question, elle s'est levée, elle a dit, ben, de toute façon, moi, j'en veux plus de cet enfant-là. Trouvez-lui une autre famille. Puis, elle est partie. Je me suis levée, je pleurais dans le corridor. Je criais, maman. Puis, elle m'a dit, je ne suis plus ta mère. Va-t'en, ils vont t'en trouver une autre. Ça a été mon premier placement. Je suis arrivée chez une dame qui s'appelait Rose Aimée, qui a accueilli des dizaines et des dizaines d'enfants. Rose Aimée était occupée. Il y avait beaucoup d'enfants dans la maison. Par contre, je me suis sentie en sécurité dans sa maison. Je me suis sentie bien. J'ai eu droit à un répit. Et ça a été important pour moi. Puis j'ai eu un deuxième placement, encore chez Rose Aimée. Moi, j'ai été chanceuse, je le dis souvent. J'ai eu deux placements. Et les deux fois au même endroit, dans la même maison, avec la même personne, ça a été assez rassurant. Malgré ça, on garde des traumatismes de ça. Donc, j'ose même pas imaginer la douleur des enfants, des gens qui ont fait 5, 6, 7 familles, qui ont vécu tellement d'abandon. C'est presque impossible de se remettre de ça, M. Arcan. T'es brisé en dedans. Ça va prendre des années et des années à un enfant pour se reconstruire, pour se remettre de ces abandons-là et se dire, hey, je vaux quelque chose. J'ai le droit d'être aimé. C'est tellement, tellement difficile parce qu'on a été abandonné souvent par les personnes qui devaient normalement nous protéger le plus, nous aimer le plus.
Mais ce qui est fascinant dans votre histoire, c'est la force de caractère. Je comprends là, que vous allez me dire, on se fait une carapace et tout ça, mais quand même, arrive un moment à l'adolescence, puis bon, vous n'êtes pas facile comme beaucoup d'ados, mais en même temps, vous trouvez votre voie dans le sport, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez faire. Il y a un côté, je ne sais pas comment le qualifier, mais de quelqu'un qui sait ce qu'il a envie, qui est capable de s'affirmer malgré tout ça. Vous pourriez être dans un coin en boule en permanence, mais quand même, vous avez fait vos études, vous êtes allé à l'université, même la Sorbonne, vous êtes retrouvé journaliste de sport quand même. Il y a un parcours là qu'il faut saluer, je pense.
On appelle ça la résistance. Vous savez, on parle souvent de résilience, mais un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit non, Nancy, c'est la résistance. La résistance à la douleur. La résistance de dire non. Je vais leur montrer que je vaux quelque chose. Je vais leur montrer qu'ils ont tort, que je peux devenir une bonne personne, que je peux faire quelque chose dans ma vie. Mais plus encore, aujourd'hui, ma résistance, c'est je vais leur montrer que malgré tout ça, je peux être heureuse. Je peux être maître de ma vie. Moi, cette résistance-là, ça a été mon plus grand allié. Et c'est ce que je veux transmettre aux enfants. Soyez résistants. N'acceptez pas ce qu'on a voulu vous imposer. N'acceptez pas la violence qu'on a voulu introduire dans vos vies. Débarrassez-vous de cette violence-là parce que votre vie, elle vous appartient. Moi, je suis contente d'avoir eu cette résistance-là, même dans mes moments les plus sombres. C'est toujours un petit moment où je me disais, non, Nancy, tu vaux plus que ça. Tu es capable. Et je me souviens à la Sorbonne, quand j'étais là-bas, quand je suis rentrée la première fois, je me disais, mon doux, la petite Odette de Saint-Dominique-du-Rosaire dont personne ne voulait. Tu sais, j'avais même pas d'amis, personne ne voulait jouer avec moi, on m'invitait jamais aux fêtes d'amis. J'étais celle avec qui il fallait pas jouer. Mais la petite Odette, elle s'est retrouvée à la Sorbonne. Tu sais, ça a été une grande, grande victoire. Et on est souvent le fruit de notre environnement. Moi, le fait d'avoir pu aller à l'université grâce à l'aide d'une femme extraordinaire qui s'appelle Manon, ça me rend émue parce que c'est une femme qui m'a pris sous son aile, puis elle a cru en moi quand moi je croyais pas en moi-même. Elle m'a beaucoup aidée, puis elle me disait, Nancy, l'éducation, c'est ta porte de sortie, puis elle avait tellement raison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'en tant que société, oui, on parle de la DPJ, oui, on parle du gouvernement, puis je veux que le gouvernement réforme la DPJ. Il faut
mais que vous avez témoigné changent. Devant la commission Laurent pour vous avez hâte, comme tout le monde, de voir où ça va aller, tout ça.
Vraiment. J'essaie d'avoir confiance. Je veux pas qu'on se donne bonne conscience avec ce rapport-là. Il faut qu'on apporte des changements. Mais plus encore, tu sais, en tant que société, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Tu sais, je pensais aux écoles privées qui, les écoles privées ont les moyens. On voit, il y a de la richesse là-dedans. pourquoi ne pas offrir une éducation aux enfants de la DPJ? Monsieur Arcan, il y a seulement 17 % des enfants de la DPJ qui sortent du système avec un diplôme d'études secondaires. Et ils quittent, ils s'en vont à la rue, ils n'ont pas d'éducation. Qu'est-ce qu'on fait? Ça suffit, il faut que ça arrête. Ces enfants-là ont droit à une éducation. Ils en ont besoin encore plus que les autres parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas de famille, ces enfants-là. Il faut que les écoles privées acceptent de leur offrir des bourses d'études, de leur permettre d'étudier. Les cégeps au Québec, les universités, il faut qu'on offre une éducation à ces enfants-là. Il faut que tout le monde s'implique.
Vous allez faire toute une marraine pour la Fondation des centres jeunesse.
Je l'espère parce que, tu sais, comme vous, en 2005, quand vous avez sorti votre documentaire, je me disais, tiens, les choses vont changer. J'y ai cru vraiment. Malheureusement, les choses n'ont pas changé. Aujourd'hui, j'espère faire bien humblement ma petite part pour sensibiliser les gens à ce que ces enfants-là vivent. Ils sont là. Ils sont des milliers au Québec. Encore l'année passée, il y a eu 118 000 signalements. 118 000, c'est chez nous, ça, au Québec. Ils sont des milliers dans le système en ce moment. Les centres jeunesse débordent d'enfants. On sait tellement plus où les mettre, M. Arcan, qu'on loue des chalets pour mettre des enfants. On en est là aujourd'hui au Québec. Maintenant, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter. Il faut les voir. On les cache, hein, parce que la loi nous dit qu'on doit les cacher. Mais je peux vous dire qu'ils sont là. Ils sont bien là. Il est plus que temps qu'on s'en occupe. Si on a envie que ces jeunes-là deviennent des adultes épanouis, des adultes qui vont contribuer à la société québécoise, parce qu'il y en a plusieurs qui sont tellement dans la souffrance après leur placement, hein, qui se retrouvent avec des problèmes de consommation, des problèmes de santé mentale, qui se retrouvent aussi trop souvent à la rue, ça m'attriste beaucoup. Donc, il faut maintenant qu'on travaille en amont, qu'on aide ces enfants-là, si on veut qu'ils puissent, eux aussi, ils ont droit aussi d'avoir une belle vie, mais nous, on doit les aider, on doit leur tendre la main, puis c'est urgent de le faire.
Merci beaucoup, vraiment, d'avoir été avec nous ce matin, Nancy Audet. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir, Nancy Audet. Plus jamais la honte, le parcours improbable d'une petite poquée, c'est publié aux éditions de l'Homme. Il n'y a rien à ajouter. Mais c'est vraiment un parcours. Et je peux comprendre que quelqu'un qui... Une ado ou un ado devrait lire ça, surtout s'il est tourmenté par des cycles de violence dans sa vie personnelle. On vient après ça.